Moi, je voudrais faire une réaction par rapport au débat et quelque chose qui peut vous intéresser, peut-être plus les labels indépendants que les majors. J'ai entendu dans une émission il y a peu de temps que, donc, comme vous dites, que de toute façon, l'industrie du CD est vraiment en chute libre, enfin, en chute libre du moins, que ça marche moins bien qu'avant, et donc au profit d'Internet, du téléchargement. Et la réflexion qu'avait fait l'animateur, c'était que justement, pour plus intéresser les gens qui achètent les CD, développer beaucoup plus l'artwork des CD. Est-ce que ça ne serait pas une idée et une solution de recours pour vraiment permettre aux labels
Bah,
indépendants comme aux majors de...
c'est une idée de quoi de... C'est pas une idée, ça.
Bah, est-ce qu'il
Bah,
faudrait
développer
pas...
l'artwork, par exemple, nous à Jaring, on fait que du digipack parce qu'on n'aime pas le boîtier cristal. Il y a des on a vraiment créé des objets qui sont magnifiques. Et après développer l'artwork, c'est un coût énorme. Enfin, des fois quand je vois des produits de majeur, il y a des éditions soi-disant limitées, enfin limitées à 10 ou 15 000 exemplaires, où il y a vraiment des objets qui sont beaux. Des DVD, c'est carrément des livres, des bottins, avec des livrets de 30 ou 50 ou 100 pages. Mais quand vous pouvez en presser 10 ou 15 000, voire 100 000, finalement, c'est pas trop cher. Enfin, c'est beaucoup plus cher, en tout cas, qu'un boîtier cristal. Quand tu veux faire une série limitée d'un bel objet à 1 000 exemplaires, tu vas payer l'objet 2-3 euros. Donc, je vais prendre un petit exemple, un CD plus un DVD dans un digipack, donc 4 volets que tu déplies, ça fait un gros pavé comme ça. On en a fait plusieurs. Quand tu veux en faire 1 000, bah, c'est pas loin de 2,50 euros, 3 euros pièce, hors taxe. Donc disons 4 euros. Si tu vends ça à 15 euros, 4 euros, plus les droits à droite et à gauche, c'est pas évident. Nous, on est à Jaring, on fait toujours du vinyle. On essaye de. Donc, il n'y a aucun boîtier cristal parce qu'on n'aime pas ça. Et on essaye de toujours faire ces couvertures en digipack, en carton. C'est parce qu'il y a. Mettre un vernis mat aussi, c'est encore plus joli. Enfin, mais tout ça, ça a des coûts qui sont assez monstrueux par rapport au disque. Quand je vous disais là qu'on gagnait 50% de plus sur CD indé, on gagne en fait par exemple sur un disque vendu 13 euros, on va dire il nous reste 9 euros. Tandis que dans la distribution classique, quand vous allez acheter le disque 17 ou 18 euros en Fnac, nous on perçoit 6 euros. Sur ces 6 euros, donc il y aura les 90 centimes de droits d'auteur, les 90 centimes, 1 euro de royauté. Ensuite, il y aura 1 euro aussi de fabrication en tant que tel par rapport au support. Donc en gros, il nous reste 3 euros, 3,50 € pour payer l'intégralité de la production. Donc ça veut dire le salariat des artistes, techniciens, location de studio, de matériel, mastering, donc tout ce qui est post-production aussi, plus la promotion. Donc quand on a des coûts des fois sur des albums à 30 000 euros, il faut déjà en vendre 10 000 simplement pour payer les frais, et les frais directs, sans parler de frais, les frais généraux, du salarié de l'équipe et compagnie. Donc les sommes sont enfin, les sommes sont importantes, parce qu'en même temps, les artistes et compagnie sont salariés. C'est aussi le développement le premier album qu'on a pu sortir en 2000, personne n'était salarié, maintenant tout le monde est salarié. Donc sur des productions comme Aitoun ou Ezekiel, c'est des choses assez conséquentes, où chaque artiste aura une quinzaine de cachets à 100 euros net, donc ça nous coûte pas loin du double par personne, 15 cachets par 5 artistes, 75 cachets, plus les techniciens. Donc on arrive à 100 cachets, on arrive à un grand salariat à 25 000 euros, donc ça va très vite.
Depuis tout à l'heure, tu parles de la difficulté de faire le métier que tu fais de plus en plus. Et justement, par rapport l'utilisation que tu en as, puisque le thème de la conférence est copyleft-copyright, ou copyleft versus copyright, ou au contraire, je vois. En fait, s'il y a des enjeux et si tu as des difficultés à faire ton métier, est-ce que le copyleft, comme le décrit Sylvain, ne serait pas une autre voie, quitte à aller dans le mur? Voilà. Et la deuxième question, c'était de savoir ce que Dominique Magnèse en pensait.
Vas-y, je pense que j'ai assez parlé.
Bon. Je ne sais pas bien par où commencer parce que, bon, comme vous l'aurez peut-être compris quand je me suis présenté, moi je viens du monde de l'écrit, des bibliothèques, et il se trouve aussi j'ai une grosse activité d'auteur puisque j'ai publié une cinquantaine d'ouvrages. Et moi, je voudrais rappeler que, ça va être un peu dans le désordre, donc je vous prie par avance de m'excuser, mais le droit d'auteur, il a été inventé par les écrivains français, d'ailleurs, et je préfère quand même l'expression droit d'auteur à copyright, parce que franchement, le droit d'auteur tel qu'il était conçu à la française est vraiment assez différent de la notion de copyright anglo-saxon. Alors, moi, dans mon dernier ouvrage, j'ai essayé de me pencher sur la problématique qui est consacrée à Internet, du droit d'auteur sur Internet, et ma conclusion est quand même que le droit d'auteur est mis à mal sur Internet, ce qui est loin d'être un scoop, je vous rassure. Et en fait, en entendant les uns et les autres, et surtout mon voisin de gauche, je me demande finalement où est la liberté. Alors, je vais peut-être avoir des propos provocateurs, mais la salle pourra réagir, c'est ça aussi la liberté. Et c'est vrai que quand j'entends que la liberté, finalement, ça se résume à faire du marchandisage ou du merchandising, c'est d'ailleurs une des réactions que propose Jacques Attali dans son dernier ouvrage sur le futur, où il dit que finalement le droit d'auteur va voler en éclats et les musiciens ne toucheront de l'argent que pour les concerts, les écrivains ne toucheront de l'argent que pour les conférences qu'ils donneront sur leur ouvrage, les acteurs, bien évidemment, ne toucheront de l'argent que pour les représentations, etc. Donc on voit bien qu'on a, de mon point de vue, une faillite du droit d'auteur, et ça me pose pour moi un problème. Je suis personnellement contre la licence globale et donc pour la loi Hadopi, et j'ai bien le sentiment d'être représenté à un point de vue ultra minoritaire. Je voudrais quand même tâcher un peu d'expliquer mon point de vue. Je crois que le principal problème est que la notion de téléchargement donc illégal ruine le statut de l'auteur, et moi ça me pose un problème en tant que parent notamment, d'essayer d'inculquer à mes enfants qu'un auteur ça se respecte, et comme pour reprendre la formule de Beaumarchais qui a été un des inventeurs du droit d'auteur, le droit d'auteur c'est le salaire de l'auteur. Donc si on se met à rémunérer les artistes pour autre chose que finalement leurs produits, c'est-à-dire des t-shirts, des casquettes, des sweatshirts, etc., je trouve ça un peu dommage et on dilue complètement la figure de l'auteur. Donc ça, c'est un premier point de vue qui est quand même assez ennuyeux. Et puis, alors, moi, je fais un parallèle, il est peut-être osé, mais le fait qu'on télécharge à tour de bras fait que donc on n'attache plus aucune importance au travail de l'auteur, tout peut être librement copié, et je vois un parallèle avec, qui nous concerne au premier chef dans l'éducation nationale, avec les phénomènes de copier-coller. Je ne sais pas si vous voyez bien le parallèle, mais aujourd'hui, on est confronté à l'université, à telle enseigne que dans cette université, on a d'ailleurs des logiciels anti-plagiat, où les étudiants font relativement souvent dans des proportions qui sont quand même grandissantes, du copier-coller, c'est-à-dire que la séquence habituelle est quand on a un travail à faire, on saisit quelques mots-clés dans Google, Google renvoyant systématiquement dans les premières pages sur Wikipédia, et puis on fait un copier-coller. Et moi, je vois un parallèle entre la copie donc sauvage des œuvres sur Internet et cette copie qu'on retrouve dans les copies d'étudiants. Voilà. Quelques pistes de réflexion.
Des questions ?
Ouais, j'ai une solution. Je trouve qu'Adopi ne va pas assez loin. Et on devrait carrément aller plus loin, et aussi bien pour Jaring que pour vos problèmes en tant qu'auteur, c'est-à-dire de supprimer Internet. Ce serait mieux, parce que tel autre où vont les choses, je ne vois pas trop comment on va revenir en arrière. Enfin bon... Je sais pas, ou alors faire un Internet, effectivement, qui soit hyper contrôlé, mais ça ne suffira pas, Adopi. Il faut aller beaucoup plus loin, je pense.
Je vais quand même tenter de répondre à cette provocation. Je crois que dans la présentation qui a été faite en préambule de la loi Adopi, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait exactes. On parle de surveillance électronique généralisée. Je crois qu'on va, les gens n'ont pas très bien analysé la loi. Il s'agit de surveiller certains réseaux qui font donc du trafic, du piratage d'œuvres de manière tout à fait illégale. Bon, moi, il ne me paraît pas éhonté qu'on aille surveiller les choses. Bon, en revanche, là où il y a quand même une surveillance généralisée, c'est pour tous les utilisateurs de Gmail. Mais ça, ils ont signé, ça leur pose moins de problèmes. Je sais pas si bon, je vais peut-être être un peu moins allusif. Quand vous utilisez la messagerie de Google, vous autorisez le fournisseur d'accès de la messagerie, à savoir Google, à analyser tous vos courriers. Si ça, c'est pas de la surveillance.
Ouais. Mais le problème de la surveillance, la mise en place de réseaux de surveillance, de technologies de surveillance, parce que c'est ça quand même. C'est bon. Alors dans le cadre de la loi Hadopi, ok, on va dire que c'est restreint à certains types de contenus. Alors d'ailleurs, c'est pas simplement. On voit bien d'ailleurs que c'est pas simplement le problème de la musique, des fichiers numériques culturels. Ça va au-delà déjà dans la loi, il me semble. Dans les justifications, en tout cas, qui sont proposées, il y a aussi le fait de dire bon, les histoires de pornographie, de sites néo-nazis, machin bidule, quoi. Les pirates associés à toute cette espèce de sphère là. Enfin, il y a quand même toute une symbolique derrière. Voilà, quand même, non ? Il me semble. Et alors, dans le cadre de ce discours, bon, alors moi, je veux bien que la loi Hadopi soit, comment dire, se restreigne à un certain type de contenu, mais rien n'empêche que, une fois que cette technologie est mise en place, qu'un prochain gouvernement futur, dont on ne connaît pas encore la sensibilité politique, se serve de cette possibilité, de cette technologie-là, pour faire autre chose. Vous comprenez bien. Ben, ça, c'est une des grandes discussions sur la loi Hadopi. Bon.
Peut-être quelque chose à ajouter, c'est que dans l'autre sens aussi, on voit bien que se développent à l'heure actuelle des réseaux de plus en plus cryptés, je pense à GNUnet ou des réseaux comme ça, et il y aura une réponse technologique de toute façon à ce type de manière de lutter contre un fait hein, que je ne conteste pas. Mais voilà, donc est-ce que ça ne va pas être ouvrir encore plus de portes dérobées, permettre à des groupuscules virulents de s'exprimer encore plus facilement? Est-ce que quelque part, il ne faudrait pas admettre que la loi a toujours un retard considérable vis-à-vis de la technologie et que ce retard, elle ne le comblera jamais?
Je vais me permettre de répondre à ces deux... Assez de réflexions qui peuvent être vachement intéressantes, du principe même où, si on se souvient bien, il y a des philosophes type Bentham qui ont pensé au panopticon pour surveiller des gens dans les prisons et les hôpitaux psychiatriques. Cette logique, elle a été reprise, enfin, a été réfléchie par Foucault, par exemple, qui a bien exprimé finalement que on a beau essayer de voir le Big Brother, hein, voilà. Il y a quand même toujours des zones d'ombre et que plus on va essayer de trouver un focus plus grand et plus précis, les gens trouveront toujours une zone d'ombre pour pouvoir exprimer une liberté individuelle. Et en gros, c'est cette logique-là avec Hadopi, enfin avec les lois Hadopi, on va retrouver des petits génies informatiques qui vont trouver des moyens de passer outre. Ça existe, bien sûr, ça existe déjà, et ils vont trouver, on va encore trouver des choses beaucoup plus complexes, et dire, parce que là, bon, quand on parle de couleur politique, on peut même parler d'une sorte de techno-fascisme, je sais pas si on peut le dire comme ça, par rapport au système politique fasciste et d'un contrôle très prégnant, on trouvera toujours des gens qui auront des zones d'ombre, hein, de toute façon. Les terroristes se contactent par Internet, ils ont beau être traqués, ils arrivent quand même à se contacter. Donc ça changera rien là-dessus, bien entendu.
Oui, j'aurais voulu mettre l'accent sur un autre type de problème, c'est qu'on parle beaucoup du droit d'auteur en musique et dans le domaine littéraire, en oubliant, il me semble, un peu ce qui est à l'origine, il me semble, quand même de tout ça, c'est-à-dire le logiciel libre, où le concept me semble quand même assez fondamentalement différent. Quand on permet d'acquérir une licence logicielle libre qui permet de modifier, de s'approprier le code source du logiciel, j'ai pas l'impression qu'on a l'équivalent encore aujourd'hui en dans le domaine de la musique et dans le domaine littéraire. Et on ne se préoccupe pas, par exemple, de faire l'équivalent d'une SACEM sur les logiciels libres, hein, pour permettre aux ingénieurs, aux techniciens de l'informatique de vivre en développant du logiciel libre, alors qu'on s'en inquiète énormément en musique, et dans une logique qui est une logique de produit, et non pas ce qui devrait être, c'est-à-dire plus une logique de développement des capacités humaines.
Alors, juste une petite précision, de la musique open source, ça existe. Il y a par exemple un site qui s'appelle CC Mixter, donc CC pour Creative Commons, où des artistes plus ou moins connus donnent entièrement tous les samples, les fichiers MIDI de leur musique. Voilà.
Alors, en réponse aussi à ce que vous venez de dire par rapport simplement à la musique, si on voulait pousser le truc aussi loin que le code source d'un logiciel libre non compilé, il faudrait donner la marque de l'ampli, le modèle, le type de lampe, les réglages, la longueur des doigts, la forme de la main, la guitare, etc. Mais bien sûr, un ordinateur, ça reste un ordinateur. Mais vous comprendrez que pour un artiste qui ne fait pas de la musique électronique, mais qui utilise vraiment un instrument acoustique, un morceau a été interprété avec un Stradivarius, je peux bien vous donner les sources, vous n'aurez pas les mêmes doigts que les miens, vous n'aurez pas le même violon, vous n'aurez pas le même micro, pas le même préamp, et vous ne pourrez jamais le refaire. Donc ça apporte pas grand-chose. Mais moi, je suis sous Linux, je m'en fous. Ça n'apporte, pour un artiste en tout cas qui est compositeur, et je reprends par exemple l'exemple pour monsieur qui écrit des livres, la différence entre un logiciel, le but c'est de le faire évoluer, et moi je comprends en tant qu'artiste qu'un artiste puisse souhaiter qu'une œuvre soit quelque chose d'arrêté et non évolutif. Je comprends qu'on ait envie de laisser le choix de faire des remixes, de choses, mais je comprends aussi qu'un artiste qui fasse du graphisme, une peinture, une vidéo, un film, puisse dire non, voilà, j'ai fait cette chose par rapport à mon vécu, à cette date-là, et je ne souhaite pas que ce soit transformé par quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que les mathématiques ne peuvent pas être un art, simplement... c'est fait pour évoluer.
Voilà. Mais la musique, la musique aussi est faite pour évoluer, elle peut être évolutive, mais effectivement ce que tu disais avec la forme, l'instrument, la forme des doigts et tout ça, non, on peut aussi voir que à l'heure actuelle, si on peut faire une comparaison avec le code source, quand un artiste donne ensemble toutes ses parties d'instruments en séparé pour que quelqu'un puisse les prendre et les remixer, ça c'est comme donner son code source, parce qu'on donne encore plus, et finalement les musiciens ont commencé à donner leur code source avant, puisqu'ils ont fait des partitions. Beethoven, c'est le premier à vendre ses partitions, donc il vend ses codes sources musicaux quelque part. Enfin, on peut le voir, on peut l'imaginer comme ça. Excusez-moi.
On peut pas réadapter les codes sources de la musique de Mozart pour la revendre
Si, parfaitement. Demandez à Deutsche Grammophonen et je pense qu'ils vous répondront là-dessus. Hein. Ils en vendent beaucoup.
Ouais, bon, bah,
on peut trouver très facilement sur Internet aujourd'hui les 8 ou 12 pistes qui composent les titres des premiers albums des Beatles et en faire ses propres remixes. Il y a beaucoup d'écoles ou de gens comme moi qui les utilisent pour apprendre à mixer et arriver à partir des bandes sources, bon, qui ont été digitalisées, à se dire tiens, et si j'essayais de refaire le même mix que l'ingé son qui a travaillé l'album. Voilà. C'est possible. Aujourd'hui, ça reste illégal parce que c'est pas encore libéré, mais comme c'est il y a bientôt 50 ans et que la durée de vie de protection est de 50 ans ou 70 ans sur les... Voilà. Mais... on va y arriver, et tous ces trucs-là qu'on écoute, on pourra en faire ce qu'on veut. Mais il n'y a pas besoin, les gens qui font de la musique le savent.
Pour revenir au sujet,
Ce dont vous parlez, la musique open source, c'était au départ, effectivement, les premières initiatives Copilot étaient vraiment héritées de la philosophie du logiciel libre. Et effectivement, au début, Ricole dira mieux que moi, ou ceux qui étaient là à ce moment-là, oui, c'était l'idée de mettre effectivement les différentes pistes en ligne, etc. Enfin, en ligne ou sur des DVD, des CD à l'époque. Puis on faisait circuler ça, ouais. Alors après, dans la pratique, bon, c'est pas hyper pratique non plus, quoi. Voilà. Comment ça va être. Il faut de la place, quoi, voilà. Mais ça se fait, quoi.
En fait, juste pour terminer, pour faire le parallèle direct entre la musique et le logiciel libre, et par exemple pour parler de la licence GNU-GPL, qui est un peu à l'origine de tous les trucs type Creative Commons, il y a un exemple auquel on ne pense pas beaucoup, ce sont les plugins VST, tous les gens qui font un peu de musique savent ce que c'est, VST ou VSTi, qui permettent de modifier le son ou de créer de la musique. Tout le monde dit, l'éditeur de ces plugins, qui s'appelle Steinberg, devrait libérer ce principe-là, de façon à ce qu'on puisse utiliser les VST sous Linux. Or, et je sais de quoi je parle, j'ai particulièrement étudié la problématique pour Ubuntu Studio. Il se trouve qu'aujourd'hui, la problématique n'est pas la licence de Steinberg, mais la licence GPL qui est trop restrictive, ne permettant pas l'inclusion de la licence VST dans un programme distribué. Voilà. Tout simplement parce que la licence de Steinberg dit « faites ce que vous voulez tant que vous ne donnez pas les sources ». La GPL dit « faites ce que vous voulez tant que vous donnez les sources ». Mais du coup, c'est la licence GPL qui est incompatible, parce qu'elle est trop restrictive. Voilà.
Juste parce que la personne au-dessus voulait intervenir depuis un petit moment. Donc,
voilà. Mais moi, je ne voulais pas intervenir sur ce débat-là. C'est sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que par rapport à la loi Hadopi, ce n'était pas si grave si elle était là, parce que de toute façon, il y aura toujours des malins qui créent de nouvelles choses pour passer au travers ou pour ne pas être repérés. Mais je crois bien, en tout cas, mon avis, c'est que ce n'est pas tellement sur le point de vue de la technologie ou est-ce qu'on va s'en sortir si elle est là qu'il faut débattre, mais surtout sur un point de vue moral, c'est-à-dire que. Et je la mettrai ailleurs sur le même. Enfin, je ne sais pas si je peux le faire parce que je la connais pas cette loi, mais je la mettrai en parallèle avec Edwige. Dire, ça reste quand même de l'espionnage. Enfin, pas de l'espionnage, mais c'est du renseignement. Et du point de vue des libertés et de la liberté, enfin des libertés fondamentales qu'on a, ce genre de loi, c'est super restrictif et on ne devrait pas à les avoir. À mon avis, il faut trouver d'autres solutions de droit.
Enfin, ce que j'expliquais, je disais pas que c'était pas trop grave. J'ai juste dit que cette loi pensait avoir une efficacité totale, voire totalitaire, on va dire, même à ce point-là. Mais de toute façon, elle en aura une d'efficacité, peut-être sur le moment, mais elle sera de toute façon forcément détournée. Les privations de liberté, au sens vraiment philosophique du terme, si l'État nous prive de certaines libertés, l'individu ou des groupes d'individus vont essayer de la retrouver quand même, quoi qu'il en soit. Quand on parle, nous, de notre liberté d'action et tout ça, il faut quand même pas oublier que c'est une création qui s'est passée sur quelques siècles, qu'on a eu des moments où on était beaucoup plus libre qu'à l'heure actuelle. Que les Américains là, viennent de se taper le Patriot Act alors que c'était complètement contraire à leur constitution de départ. On a des lois à l'heure actuelle sur le fichage ADN qui sont en train de se développer de plus en plus. Edwige, ça vient de reculer, mais on va se le taper quand même au bout d'un moment. On n'est pas dans une période propice, disons, au développement des libertés individuelles ou des libertés même en général. Ça serait même plutôt l'inverse. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas non plus contrôler une personne à 100%. C'est parfaitement, mais philosophiquement, impensable, quoi.
Ouais, sinon, il faut leur mettre une puce dans la tête. Edwige et compagnie, c'est que des choses avant ça n'existait pas. Maintenant, ça va exister, même des fois si c'est un peu édulcoré. Ça va revenir par la fenêtre, par la porte, la cave, etc. Donc ça continue. On est fiché. Après, tu dis qu'il y aura toujours des gens qui seront capables de casser les codes et compagnie. C'est une minorité. C'est vraiment encore une minorité. Ça veut dire qu'il y aura 1% des personnes qui seront capables de faire du piratage, de crypter les données, ainsi de suite. Quand vous voyez, ne serait-ce que nos parents... Des amis qui n'ont aucune compétence en informatique, c'est quand même la majorité des personnes, il ne faut quand même pas oublier, qui sont sous Windows, à un moment donné, il y a un écran bleu, qu'est-ce qui se passe les gens ne sont pas habitués à pouvoir lutter contre ce... Pour moi, c'est un terrorisme intellectuel qui devient un terrorisme numérique. Et on doit faire vraiment attention. Et s'il n'y avait pas eu des petites manifs, des garde-fous, ce serait fait depuis longtemps. Et de toute façon, ça va continuer d'une manière ou d'une autre. Il y aura toujours un nouveau nom. Après Dapsi, il y a Depi, Edwige en parallèle. À un moment donné, s'ils sont en train de faire quelque chose ensemble, si Edwige se fait niquer par Depi ou quoi que ce soit, où va-t-on ? Enfin, ça va devenir un gros bordel. Pour moi, c'est du fichage, flicage. On voit aussi très bien dans la rue que c'est un peu la même chose. Après, il suffit d'avoir une certaine couleur de peau pour s'apercevoir qu'à un moment donné, on a beaucoup plus de problèmes. Hier, par exemple, on était en train de démonter le festival Rhythm Collision qu'on a fait la semaine dernière, et, qui était juste au bord de l'autoroute. Et à un moment donné, voilà, et la BAC arrête. Déjà, la BAC n'a pas arrêté de nous arrêter dès qu'on sortait du site. Et ensuite, pourquoi ? Bah, on se demande. Ensuite, ils arrêtent une voiture juste devant. Enfin voilà, c'est à un moment donné, on va passer. Ce qui se passe aussi dans les rues, qui est dans l'air du temps, et ça depuis quelques années. Merci Sarko. Maintenant, ça va passer en numérique. Il ne faut pas se leurrer. Je ne vois pas pourquoi. Les Américains se sont tapés. Maintenant, ça devient des faire-valoir. Il y aura toujours des terroristes. Donc, à cause des terroristes, il faut qu'on flique tout le monde. Comme ça, tout le monde sera bien content. Et la chose qui m'effraie le plus, c'est la majorité des gens qui disent amen, un peu comme des moutons, par rapport à tout ça. Oui, ça va nous sécuriser. Oui, il y aura moins de terrorisme. Oui, il y aura moins de pédophilie ou quoi que ce soit. À condition, eh bien, ils signent des papiers blancs, enfin, ils signent des avoirs, voilà, c'est se faire avoir, et on doit résister. Les choses doivent être faites correctement, les choses ne doivent pas être mélangées, et 1984, on est dedans quand même, faut pas se leurrer. Les choses sont plus jolies, c'est moins totalitaire, mais quand même, on peut savoir qui vous êtes, et comment fliquer le monde entier, c'est de mettre tout le monde sur Internet aussi simplement que ça.
Est-ce que je peux avoir un droit de réponse, ouais, peut-être à apporter
Allez-y, j'allais vous relancer pour vous poser notre question, mais allez-y.
Quelques précisions. Je crois qu'il faudrait un peu raison garder et quand même, on en arrive à parler de la BAC alors qu'on est sur un débat entre le copyright et le copyleft. Concernant le projet de loi Hadopi, puisque la loi n'est toujours pas votée, je vous conseille quand même de le lire, parce que quand on parle de quelque chose, il vaut mieux l'avoir lu avant. On a souvent un point de vue un peu plus objectif. Et il s'agit de surveiller des réseaux d'échange pair à pair, la traduction de peer-to-peer, qui sont majoritairement des réseaux d'échange pirates. C'est tout. Donc le courrier électronique n'est pas visé par cette mesure-là, etc., etc. Et moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que les gens se focalisent là-dessus. Donc, je rappelle que le projet de loi, c'est certes une surveillance, donc on peut aller jusqu'au terme de flicage, mais de réseaux qui échangent de la musique illégalement. Donc, qu'on surveille des réseaux illégaux, je pense que ça fait partie des missions de police que de surveiller les réseaux de prostitution, les réseaux de drogue. Personnellement, d'un point de vue citoyen, ça ne me choque pas tellement. Et à contrario, je trouve étonnant que majoritairement les gens utilisent Google, qui est une vaste entreprise de flicage généralisé. Et ça, ça gêne personne. Je trouve là qu'il y a une certaine manière de contradiction.
Si je puis me permettre, on dit que, effectivement, vous dites, c'est une loi qui tend à surveiller des réseaux qui échangent de la musique de manière illégale. Bon, c'est pas toute la musique qui est échangée là. C'est essentiellement des gens qui sont extrêmement visibles au niveau musical. Au niveau des téléchargements, les plus téléchargés, c'est les plus connus. Donc là, en gros, c'est une loi qui est votée pour à peu près un petit pourcentage d'artistes. C'est à peu près 3% des artistes qu'on va généraliser à toute la création, comme ça. Il y a quand même un problème de fond là, c'est qu'on est en train de faire des lois pour un petit lobby de gens. Et c'est surtout ça le fond, c'est ça qui est gênant. C'est pas une loi qui est impartiale, là. C'est une loi qui va justement protéger des gens qui sont déjà quand même plutôt bien dans leur situation économique.
Ouais, surtout c'est pas forcément... Tout de suite le peer-to-peer a été associé au piratage. Déjà c'est une technologie. Et les réseaux soi-disant surveillés ne sont pas forcément des réseaux de piratage. On peut trouver, d'accord, des œuvres piratées, mais le principe en tant que tel, si j'utilise tel ou tel logiciel et on transfère nos données par rapport à une production entre les artistes, comme ça arrive souvent, pour envoyer des remixes et compagnie, on va utiliser une technologie de peer-to-peer, mais c'est nos propres œuvres et il n'y a rien de piraté. Donc, en même temps, surveiller des réseaux pirates, enfin dits pirates, c'est pas, pour moi, ce n'est pas le bon terme. Il peut y avoir des œuvres pirates dessus. Après, des réseaux, parce que ça va surveiller tous les réseaux qui existent. Il peut y avoir peut-être des réseaux que je ne connais pas, de pédophilie, de terrorisme ou quoi que ce soit. D'accord, là je suis entièrement d'accord. Mais c'est toujours pareil. Au nom d'eux, on va surveiller tout le monde. Donc moi, j'ai peur, je m'inquiète, c'est tout. Et on est en 2008, donc on se retrouve l'année prochaine ou dans 2 ans, vous verrez, il y a encore une nouvelle loi.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ça reprend un peu ce que vous venez de dire exactement, c'est que justement c'est quelque chose qui est risqué parce que donc on flique que des personnes qui sont justement qui font de l'illégal, donc c'est pas bien et tout. Et c'est justement le système de la pente glissante, c'est-à-dire que au fur et à mesure on va de plus en plus loin gentiment en ajoutant des petits trucs. Et le parallèle que je peux faire, je vais encore faire un parallèle mais qui a pas tellement à voir mais un petit peu, c'est la réforme avec la loi Pécresse des universités qu'on a eu l'année dernière, c'est-à-dire que finalement, on ne dit pas grand-chose dans la loi, mais on ouvre des portes, on commence à dire, on touche des sujets, et puis si ça passe, bah, peut-être que le coup d'après, on pourra toucher des sujets un peu plus profonds et aller toujours un peu plus loin. Et finalement, dans ce que vous disiez, dans 3-4 ans, ou même dans 10 ans, avoir plus du tout cette liberté et être complètement fliqué. Et donc moi, c'est pour ça que, comme la loi Pécresse et cette loi Dopi, manifestement, je dirais non, parce que ça ouvre des portes à des dangers, même si ça ne les apporte pas tout de suite.
Et je reviens à des choses plus douces. À un moment donné, pourquoi on en arrive là ? Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, au début de ce qui a été les ventes en ligne légales, l'offre était catastrophique. En termes de qualité de son, en termes d'infrastructure de site pour accueillir le visiteur, pour offrir telle ou telle musique à télécharger, les majors ont mis quand même des années à s'apercevoir qu'il y avait quelque chose qui se passait devant eux. Et s'ils avaient réagi en temps et en heure, on aurait pu avoir des choix divers et multiples, donc d'avoir tout de suite des millions d'œuvres à télécharger de manière légale, avec une bonne qualité, avec une présentation des artistes, enfin quelque chose de cohérent. Et on parle du peer-to-peer, pour ceux qui ont essayé, des fois, nous, on l'essaye déjà pour trouver nos morceaux, pour savoir, tiens, tel album est sorti avant même sa sortie, il est déjà sur le réseau, étant donné que nos chers amis médiatiques à qui on envoie les disques en priorité, des fois, en font pas forcément un très bon usage. Donc des fois, souvent, sur le peer-to-peer, vous voulez télécharger tel ou tel disque, et finalement, si c'est une vidéo, vous tombez sur un film de cul. Si c'est un artiste connu, ça devient un autre artiste. Enfin, il y a aussi une très mauvaise qualité des œuvres que vous pouvez trouver sur le peer-to-peer. Donc l'offre de qualité n'a jamais été là au départ. Et après, maintenant, pour rattraper le temps perdu, on fait de la répression en disant, finalement, c'était un sacré marché. Il est en train de nous passer sous le nez, donc maintenant, on met de la répression, on bouche les trous en essayant que ça se régule un peu plus tard. Je suis persuadé que s'il y avait eu un système opérant de qualité dès le départ, les gens préfèrent payer une somme raisonnable. Il ne faut pas non plus que ce soit trop cher. Déjà, ne pas oublier que c'est quand même un fabricant d'informatique qui a fixé que l'œuvre valait 1,99 centimes. Ça, c'est quand même pas mal. Je fixe l'œuvre. Et voilà, donc c'est simplement pour dire que si elles étaient posées de manière plus simple et si elles avaient été prises en considération en amont par les majors, on aurait sûrement de plus beaux outils à l'heure actuelle et on pourrait faire plus de choses.
Mais je pense même que, je reviendrai sur l'introduction que j'ai faite quand je parlais de M. Brandenburg et de Frank Zappa. En gros, les industries du disque, quand elles ont eu le CD en main, elles se sont dit « on a un objet numérique qui est inviolable ». Pourquoi s'ennuyer à continuer à faire de la recherche et du développement à part juste pour un travail pour les professionnels type le DCC et les mini-disques, parce que c'est pas des supports qui se sont vraiment vendus. D'ailleurs, le DCC a complètement disparu et très rapidement d'ailleurs, et ils ont jamais imaginé que finalement une compression en MP3 qui trouvait de moins bonne qualité que le disque, ce qui est une réalité avec la capacité du disque, allait prendre le pas à ce point-là. Et surtout, ils avaient complètement oublié que l'informatique est en train de se développer et que les prix étaient en train de complètement de s'effondrer et pour que ça devienne au grand public. Ce qui est encore plus rigolo, c'est qu'ils ont beau nous dire qu'ils utilisaient des compacts disques, donc avec la qualité maximum, les majors n'ont jamais utilisé les capacités d'un CD à fond. Donc finalement, le MP3... bah, il n'y perdait pas spécialement. Et si on veut voir une différence entre un CD et un MP3 quand on a deux pauvres petites enceintes, enfin, on ne va pas vraiment la sentir à part sur un niveau sonore. Il faut vraiment avoir déjà un système son relativement important pour vraiment sentir une différence.
Juste un petit truc, l'ironie du sort, c'est que le mini-disque, c'est aussi une compression destructive telle que le MP3, c'est tout.
Alors, moi, j'avais une petite remarque, c'était pour revenir un peu en arrière par rapport à la tournure qui a pris le débat, sur ce que vous disiez par rapport aux écrivains qui ont milité pour le droit d'auteur. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à cette période où le droit d'auteur a été créé, les écrivains qui ont milité pour sa défense étaient des écrivains qui étaient très très connus. En tout cas, les personnalités qui ont milité pour étaient très très connues. Et les masses silencieuses, elles, en gros, le peuple n'était pas, n'a pas du tout pris part aux festivités, je dirais. Alors que maintenant, dans la société qui est la nôtre, qui a complètement changé, la tendance s'est totalement inversée. C'est-à-dire que, par exemple, la loi Adopi, ça ne cible pas, de par ses défauts, ça ne cible pas... ça cible énormément de gens. Et ce qui est en train de se passer par rapport au droit d'auteur, par rapport aux licences libres, au Creative Commons, à la LAL, etc., c'est cette fois-ci les masses silencieuses qui se font entendre. C'est cette fois-ci pas les artistes connus, reconnus, qui sont visibles par tout le monde, mais tous ceux qui ne sont pas connus, etc., etc., qui, eux, défendent le droit d'auteur. Le droit d'auteur est défendu par ces gens-là, et aussi par les pirates, quoi qu'on puisse dire sur eux. Ce qui n'est pas le cas maintenant, le droit d'auteur n'est pas défendu par les gens qui sont médiatisés, par les grands artistes qu'on connaît tous. Et là, il y a eu une inversion par rapport à ce que vous disiez sur la période à laquelle a été créé le droit d'auteur. Les temps ont changé, quoi.
Oui, alors, ça tombe bien que tu parles de ça, puisque demain, il y aura des conférences sur les cultures par tous. Et effectivement, aujourd'hui, on peut tous créer des contenus. Et donc, comme il n'y a pas de notion qualitative dans l'œuvre, forcément, on est tout potentiellement, juridiquement tous, artistes. Et on a tous la possibilité de créer des contenus. Donc, ça concerne un peu tout le monde. Et donc, effectivement, une culture qui se développe, une culture populaire, certains diront. Moi, je voulais revenir auprès de Dominique Magnès, parce que je vois qu'il est un peu tout seul. Et je voudrais un petit peu aussi...
Ça ne me gêne pas.
Non, mais je sais, vous avez la force de caractère pour l'assumer, c'est très bien. Et je pense qu'il est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir le droit d'auteur. Et ce si beau code de la propriété intellectuelle décrit clairement que une œuvre appartient à l'artiste, et ça, je pense qu'il faut le conserver. C'est sûr que il y a deux choses, il y a le fond qui est que le droit d'auteur doit rester là. Et tout à l'heure, vous parliez que Jacques Attali avait écrit que nous allions perdre le droit d'auteur. Je pense qu'il y a deux notions dans ce qu'on parle. On a parlé de sous, donc ça, c'est plus le droit. De toucher des rétributions, puis il y a le droit moral, le fait de que l'œuvre appartienne. Pour finir, à une question à Dominique Magnès, aujourd'hui vous êtes auteur, donc je pense que vous êtes directement concerné, et peut-être votre réaction par rapport à la loi Adopi, peut-être vous concernez même directement vous en tant qu'auteur, et vous intéresse pour peut-être limiter l'utilisation qu'on pourrait faire de votre œuvre. Qu'est-ce qu'il vous empêcherait aujourd'hui de dire, voilà, même si je n'ai pas de rétribution sur mon œuvre, je ne perds pas le fait que c'est mon œuvre, puisque le droit d'auteur vous protège de toute façon. Et cela, en diffusant votre œuvre, pourquoi pas avec des Creative Commons, cet exercice-là vous permettrait-il pas de vous faire connaître et de pouvoir faire des séances, des formations, comme vous savez bien les faire de temps en temps. Ça veut dire, profite à votre... à votre renommée et à l'expression de vos idées.
Alors, premièrement, je crois qu'effectivement, sur les réseaux de pair à pair, on trouve majoritairement de la musique et des vidéos, et on trouve très très peu de livres. Si on va sur Emule, parce que j'ai quand même testé pour aller voir ce genre de choses, il y a très peu de livres, si ce n'est quelques bouquins d'informatique pour les geeks, en mal de nourriture terrestre, mais il est clair qu'aujourd'hui, bon, c'est la vidéo et la musique. Et pour l'instant, d'ailleurs, dans ce débat sur le droit d'auteur, les écrivains sont majoritairement absents. On ne les entend pas du tout sur cette question, alors que, donc, comme je le rappelais, le droit d'auteur a été créé par, par les écrivains. Concernant ma propre position par rapport à tout ça, moi, il m'arrive de publier des textes en licence Creative Commons. Ça ne me gêne pas du tout. D'ailleurs, pour me prouver ma bonne foi, à l'Université Lyon 2, on diffuse un guide de l'environnement numérique de travail qui est diffusé en licence Creative Commons, donc que les autres universités peuvent se réapproprier et donc diffuser dans les mêmes conditions. Et ça ne me gêne absolument pas d'avoir des œuvres donc payant, d'être rémunéré donc sur des droits patrimoniaux. Mais moi, je crois, vous parliez du droit moral de l'auteur, et ça, c'est quand même effectivement quelque chose de fondamental. Et je pense qu'autour de cette table, il pourrait peut-être y avoir au moins un consensus sur le droit moral. Et force est de constater que sur Internet, le droit moral de l'auteur, il est le plus souvent bafoué. Prenez des vidéos qui sont compressées dans des formats tellement donc incroyable qu'on voit plus rien, quand c'est pas un film qui a été capté par une caméra numérique dans une salle de cinéma où on a les gens qui se lèvent dans la salle, le bruit du mangeur de pop-corn à côté, etc. On a les génériques qui souvent effectivement passent à la trappe. Donc on voit très bien que le droit moral est complètement bafoué. Bon, je ne veux pas rentrer dans des considérations aussi techniques sur les formats de compression, bon, qui quand même sont destructifs. Donc là aussi, on a quand même la forme morale. Vous parliez de Digipack tout à l'heure. Moi, il m'arrive d'acheter des CD qui sont de véritables œuvres d'art. Et quand on va sur Emule, il est quand même assez rare d'avoir les bouclettes qui soient numérisées en qualité correcte. La plupart du temps, ils sont absents. Donc, on voit très bien que cette œuvre, et moi, l'œuvre, elle est complètement déstructurée. Et moi, ce qui m'inquiète là-dedans, au-delà de mon propre cas, c'est plutôt un combat un peu théorique sur cette notion, sur cet respect donc du droit moral des auteurs qu'Internet quand même met à mal.
Je veux juste intervenir sur deux points en fait qui m'ont l'air intéressants. Vous parliez en fait d'œuvres déstructurées par rapport à Emule et par rapport à ce qu'on peut trouver sur les réseaux peer-to-peer. Je peux prendre par exemple l'exemple de iTunes qui va vendre des morceaux de musique à l'unité, qui va aussi totalement déstructurer un album et l'objet album, la démarche artistique sur un album, sur 10, 15 titres qu'un auteur va vouloir mettre dans un album, qui peut être véritablement un vrai projet artistique. Donc j'allais dire, Internet est déstructurant peut-être, mais il y a beaucoup, à mon sens, de personnes aussi qui en vivent aussi de cela. Deuxième chose aussi, alors c'est peut-être plus particulier sur les livres, est-ce que vous accepteriez que pour chaque citation d'un de vos livres qui ne soit pas en Creative Commons, on va écarter ce cas-là particulier, que des gens doivent payer des redevances pour l'utilisation d'une ou deux phrases qu'on vous aurait citées?
Il n'y a pas de problème pour la citation, le droit de la citation il est encadré. On peut même citer un paragraphe. Il y a une jurisprudence du droit de la citation qui est encadrée. Il y a une exception dans le droit de la propriété intellectuelle qui concerne le droit qu'on appelle de courte citation. À partir du moment où la citation elle est encadrée par des guillemets et où l'œuvre elle est correctement citée, il n'y a pas de problème. Mais moi, même si la citation elle est extrêmement longue, ça ne me posera aucun problème. On a quand même, il faut le savoir, peut-être ça ne sert à rien de se boucher les yeux, un réel problème au niveau des étudiants et du copier-coller. Alors, c'est peut-être un problème, moi je crée un lien qui est peut-être purement fantasmatique, je veux bien aller jusque-là, mais il y a un véritable problème qui va se poser de manière de plus en plus abrupte dans les années qui viennent. Mais ça n'a peut-être aucun rapport avec le débat qui nous anime ce soir.
Moi, je pense qu'enfin, il y a peut-être un lien, c'est surtout les modes de consommation. Quand vous parliez de la déstructuration et d'une sorte de dissolution par ce fait Internet et des téléchargements des droits d'auteur, je pense que quelqu'un comme Walter Benjamin, on parlait bien quand il commençait à parler de la reproduction industrielle de la musique. Et la reproduction industrielle des œuvres d'art, en disant que de toute façon, ça amenait à la perte l'auteur et son piédestal d'artiste. et quelque part amener une nouvelle société de consommation. Or, à l'heure actuelle, on voit qu'on a une autre société de consommation qui est en train de se faire. Et ce qui peut faire peur aussi quelque part, c'est que ben, les étudiants, avec leurs cours, ont le même comportement, c'est-à-dire qu'ils consomment des cours, ils ne viennent plus s'éduquer, parce qu'ils ont l'habitude d'avoir une consommation d'un produit culturel ou d'un produit intellectuel qui est, qui est comme s'il était dans un supermarché, qu'il allait acheter des bonbons.
J'aimerais justement vous poser une question à vous qui êtes auteur, on va dire papier. Est-ce que vous avez une société de gestion de droits collectifs équivalente à la SACEM ou autre ? Parce que par exemple, moi qui suis musicien, le système actuel me pousse à aller à la SACEM pour la gestion de l'utilisation commerciale de mes œuvres. Ce que pour l'instant j'essaye de tenter de refuser, mais malheureusement je vais être obligé d'y passer à un moment ou à un autre quand des radios vont me demander de pouvoir diffuser certaines choses. Nous, quand on est à la SACEM, on n'a plus le choix de mettre certains morceaux en Creative Commons et d'autres, par exemple, en utilisation réservée commerciale. Vous avez cette chance, vous, manifestement, de pouvoir choisir si vous diffusez en droit d'auteur ou en Creative Commons vos œuvres. Il y a une société de gestion qui s'impose dans ce domaine de l'écriture ou pas du tout, ou c'est très différent ?
Alors, la réponse est négative. Il n'y a pas de gestion collective des droits en matière pour les écrivains. Et le règlement des droits patrimoniaux se fait par un contrat que passe l'auteur avec l'éditeur. Il n'y a pas de gestion collective, hein, comme c'est le cas pour la musique avec la SACEM. Donc on peut, et il n'est pas interdit d'ailleurs, de passer un contrat avec un éditeur X, puis un éditeur Y, Z, etc. Donc là, on a une totale liberté. Bon, cela étant, il ne faut quand même pas être naïf. Le statut des auteurs n'est pas si enviable que cela. Et l'auteur, il est sous le joug aussi de l'éditeur.
Donc, alors là, justement, je rebondis parce que votre statut, vous dites qu'il n'est pas si enviable. Moi, je vous dis qu'il est très enviable parce que le système qu'on a, nous, dans la musique, en fait, du coup, nous empêche d'avoir la liberté de choisir puisque tout nous pousse vers un système où nous sommes dépossédés, en fait, de notre œuvre. C'est ce qui se passe avec la SACEM. Alors que vous, vous gardez le choix, par des contrats individuels, de faire ce que vous voulez avec vos textes. Voilà. C'était juste le parallèle que je voulais jouer.
Je voudrais savoir, en fait, si tu pouvais argumenter ce qui te pousse à être à la SACEM.
Tout simplement, en fait, une rencontre avec un des programmateurs de la grande radio RTL2 en début de cette année, qui nous a dit, bah, écoutez, j'aime bien ce que vous faites. C'est un des grands méchants loups de la diffusion, pour moi en tout cas, mais qui nous a dit, ben voilà, j'aime bien ce que vous faites, je vais suivre vos prochaines productions, parce que pour le moment, ça ne me paraît pas encore très mature, mais je pense que les prochains titres seront bien. Par contre, si vous voulez qu'RTL2 vous diffuse, il n'y a pas d'alternative. Vous allez à la SACEM, nous on ne fait pas de contrat de droit individuel.
Non, c'est si tu veux être rémunéré pour les diffusions, il faut que tu sois à la SACEM.
Mais c'est même pas le sujet, c'est que lui refuse de diffuser sur sa radio des œuvres qui ne sont pas dans le catalogue de la SACEM.
Bon, après c'est pas c'est un choix je sais pas pourquoi il fait ce choix parce qu'il y a aucune notion derrière.
Moi, j'avais une question, c'était pour revenir à tout l'objet du débat. Ça serait comment trouver une symbiose entre auditeur et créateur sans mépriser Internet ? Parce que moi, qui suis à l'université, j'ai l'impression que Internet, c'est maintenant la phase obligatoire et que même tous les profs nous demandent qu'il faut utiliser Internet pour tout. Si on crée de la musique, si on crée des partitions, il faudra le rendre via Internet, etc. etc. Alors, comment... Avez-vous des solutions ?
Ta question, c'est comment faire sans Internet ?
Non. C'est voilà, comment faire avec Internet ? Parce que l'auditeur adore Deezer, l'auditeur adore tout ça.
Il y a des systèmes qui existent déjà, comme Cellbound ou d'autres, où en tant qu'internaute, tu peux devenir producteur. C'est-à-dire que tu achètes des parts, après, par exemple, 10 euros, au bout de. Tous les internautes décident de voter 10 euros, enfin de prendre une action de 10 euros pour tel artiste et que ça monte à, je crois, sur Cellbound à 30 000 euros. Ensuite, cette somme est destinée à produire l'album de l'artiste. Après, il y a des projets aussi concernant soit du tour ou une opération précise. Donc tu vas sur ces sites. Il y a un site justement qui a été créé l'année dernière par un étudiant lyonnais, je ne sais plus quel est le nom, mais qui fonctionne sur le même principe, c'est que tu deviens plus ou moins actionnaire en tant que producteur parce que tu payes, t'achètes des parts à 10 euros. Et selon les sommes, quand les sommes atteignent des montants déterminés, donc 30 000, 50 000 je crois pour le site créé à Lyon, donc ensuite ça part en production. Donc tu as un rapport en temps direct en tant qu'internaute par rapport à l'artiste parce que tu vas participer avec forcément des milliers d'autres internautes à la production d'un album, d'une tournée, ainsi de suite. Ce que je trouve un peu étonnant dans ce genre de site, l'idée est pas mal, ça fonctionne a priori. Parce qu'il y a quand même pas mal de projets qui arrivent à récolter 50 000 euros. C'est un peu ce qu'il y a derrière. C'est qu'à un moment donné, il y a forcément un producteur quelque part. Et est-ce que les artistes ont la liberté de choisir le studio avec lequel ils vont enregistrer? Est-ce qu'ils ont la liberté d'aller à tel ou tel endroit avec la somme qui a pu être récoltée? Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné encore un business qui se met derrière et finalement le producteur il est caché, mais il y en a un en tout cas qui récupère. Mais il y a des choses comme ça qui existent déjà. Après nous on pourrait faire aussi une souscription par exemple pour dire voilà, on voudrait produire tel artiste ou alors tel nouvel album de tel artiste. On demande aux internautes si ça vous intéresse, on fait en direct, voilà, faites un donate par PayPal, 5 euros, 10 euros. Après, on s'engage à vous envoyer le disque en avant-première, de faire une édition collector, comme font ces sites. Ils font une édition collector aux gens qui ont souscrit. Ce qui est important, je pense, c'est quand même que les gens comprennent qu'il faut ça beaucoup d'informations, de communication et de pédagogie pour leur expliquer que leur action peut avoir des conséquences très néfastes sur nous, enfin sur des structures qui n'ont pas les reins assez solides, qui ne sont pas des trusts financiers, ou chez les majors qui appartiennent déjà encore à d'autres compagnies, l'activité musique, ça représente quelques pourcents d'un chiffre d'affaires qui est déjà lui-même à plusieurs dizaines de milliards. Donc les gens comprennent qu'à un moment donné, ils doivent un peu comprendre que leurs actions ont des conséquences et que s'ils veulent toujours avoir un paysage, on va dire, culturel diversifié. On est quand même générateur aussi souvent de manière globale, des autoproductions, des labels indépendants. On est souvent quand même générateur des futurs artistes. Il y en a pas mal qui ont été défrichés par des associations, aussi bien en termes en tour qu'en termes de création. Et après, l'artiste va ailleurs. Il y a encore pas mal de cas d'histoire dans ce style. Et si on n'existe plus, à un moment donné, comment ça va se passer pour les nouveaux artistes qui voudront aller sur les scènes? D'autant qu'en plus, on a un phénomène de rachat des salles par des grosses compagnies, comme ça existe aux États-Unis et en Belgique, où à un moment donné, comme ils sont en train de maîtriser comme Live Channel, qui maintenant, Madonna ne signe même plus avec une maison de disques, elle signe avec eux. Donc maintenant, ils récupèrent ces droits aussi bien en termes de merchandising, à tout niveau, pour des sommes, je crois que c'est 150 millions de dollars, c'est des trucs de ouf. Donc maintenant, il y a aussi bien le système peer-to-peer, dit complètement illégal, où les internautes piochent allègrement. D'un autre côté, il y a quand même des gros systèmes commerciaux qui se mettent en place pour maîtriser de A à Z aussi bien le divertissement, la communication, la production, ou le disque en fait partie, mais en fait, ils prennent tout.
Moi, je voulais revenir un petit peu sur ce sujet copyright, copyleft, enfin droit d'auteur, licence ouverte. Finalement, vos réflexions sur votre statut d'écrivain m'amènent à penser quelque chose d'assez paradoxal. Pourquoi les auteurs-compositeurs de musique ne seraient-ils pas des écrivains ? Enfin, quelque part, pourquoi on a l'air de dire en général, et le cas que tu citais tout à l'heure montre bien qu'il y a une très mauvaise volonté d'accepter la gestion individuelle en musique alors qu'elle est tout à fait possible en littérature. Il y a vraiment quelque chose qui pose problème. Là, cette mauvaise volonté, à mon avis, j'identifierais dans une sorte de série d'habitudes prises au cours de la période précédente, du siècle dernier, par les diffuseurs, les organisateurs de spectacles, puisqu'on retrouve ce même genre de problème aussi dans l'organisation de spectacles quand on a des musiciens qui sont sous licence ouverte. Et voilà, enfin, en gros, je vois pas pourquoi les musiciens leur disent c'est le bordel, ça va être super difficile à gérer si vous êtes en licence ouverte, alors que les écrivains, on leur dit ils font ce qu'ils veulent, quoi. Donc quelque part, je me demande si le fond du problème c'est pas la mauvaise volonté de gens qui sont dans un système et qui veulent pas en sortir et donc prendre acte de l'évolution du droit d'auteur. À l'heure actuelle, il y a plus de, rappelons-le, il y a plus de 140 millions d'œuvres qui sont déposées en Creative Commons. Ça montre bien quand même qu'il y a un certain engouement de la part des des créateurs pour ce type de licence. À l'heure actuelle, on légifère pour essayer de sauver un certain nombre d'artistes qui ne sont pas forcément représentatifs de la diversité culturelle, puisqu'ils sont un pourcentage infime par rapport à l'immensité de ceux qui, professionnels ou non, créent des œuvres, que ce soit en musique ou dans d'autres formes d'art. Il y aurait peut-être matière à réfléchir sur de nouveaux principes qui pourraient se baser, par exemple, sur le modèle de ce qui est appliqué en littérature et en musique. Voilà. En gros, c'est ce que ça me fait penser, tout ça. Parce que je trouve ça quand même un petit peu déplorable que l'on pousse des gens à aller s'inscrire à la SACEM quand, par exemple, pour mon cas, moi, je suis démissionnaire de la SACEM, justement, parce que ça ne me permettait pas, philosophiquement, comme sur le plan du développement que j'avais choisi pour la diffusion de ma musique, ça ne me convenait pas. Donc, il a fallu que je fasse les démarches pour démissionner. Ça a été quand même assez difficile, puisqu'il a fallu 1 an et demi de démarches pour y arriver. Mais bon, passons sur ce cas. Je pense qu'il y a quand même un léger problème. Quoi. On a vraiment toute une série du milieu de la musique qui continue à avoir des vieux réflexes et qui n'arrive pas à changer avec son temps. Donc c'est peut-être plutôt là qu'il faudrait voir une solution à tous ces problèmes de piratage, etc. C'est-à-dire de donner aux artistes la possibilité d'avoir réellement le choix sur la manière dont ils veulent faire carrière et de laisser le temps à ces nouveaux modèles de se développer pour voir si finalement ils ne sont pas aussi, à leur manière, pérennes sur le plan économique. On voit bien d'ailleurs que c'est pérenne dans certains cas, quand les artistes sont connus, qu'ils soient en Creative Commons ou à la SACEM, ça ne change rien, ils gagnent de l'argent. Voilà. Et pour eux, on ferait des efforts, et puis pour un petit groupe qui veut démarrer et qui est repéré par une radio nationale, ah ben non, va t'inscrire à la SACEM, c'est obligatoire, sinon c'est le bordel. Alors moi, je trouve ça particulièrement de mauvaise foi, et je pense qu'il y aurait lieu, alors c'est un projet dans lequel j'invite les musiciens qui sont présents, monter un véritable syndicat des auteurs-compositeurs de musique libre et de commencer à ouvrir notre gueule un peu plus quoi, là-dessus. Parce que franchement, là, il y a vraiment un gros problème.
Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais le fond du problème, c'est l'information du public, des gens comme des gens d'RTL2 que tu cites qui croient être obligés de prendre des œuvres à la SACEM, et même pire... certains contrôleurs de la SACEM qui vont contrôler dans les bars et tout ça sont persuadés qu'un bar qui diffuse de la musique, même sous licence libre, est obligé de payer une taxe à la SACEM.
C'est aussi un projet qu'on a qui s'appellera SACEM Alert, justement, qui permettra de repérer tous ces abus de pouvoir et de situations dominantes que la SACEM exerce encore, puisqu'elle est en monopole pour l'instant, puisque ça risque d'être largement remis en question, et tant mieux dans les années à venir, avec justement des extorsions de fonds, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement. Il s'agit, je connais des cas de bars qui diffusent essentiellement de la musique libre, on leur fait quand même payer par force leur forfait SACEM, alors que les artistes qui diffusent ne sont pas du tout à la SACEM. Il y a vraiment un réel problème, parce qu'il y a un problème de collusion. Et ce problème de collusion, on le retrouve dans les positions de la SACEM. Si la SACEM, par exemple, avait une position extrêmement anti-Adopi, déjà, je me serais dit, ah tiens, il commence à évoluer. Parce que ça aurait pu être aussi le message des auteurs de dire, non, nous, on est ouvert au partage, d'une certaine manière, et on est ouvert à une sorte de pédagogie qui permettrait à l'internaute de comprendre que la rétribution des artistes, c'est quelque chose d'important, pour leur travail, c'est tout à fait normal, c'est pas du tout en opposition à ça que se développent justement ces licences ouvertes. C'est pour chercher de nouveaux modèles économiques dans une économie qui est en train de se casser totalement la gueule, et c'est irréversible. Voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Et moi, je suis persuadé que de toute façon, ça va s'effondrer, et c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est comme le charbon et l'acier dans les années 80, quoi. Enfin, voilà, c'est une crise structurelle. Cette crise structurelle, malheureusement, elle frappe des gens qui sont plus ou moins gros. Je trouve que c'est vraiment dommage que ça puisse frapper des indépendants comme vous, parce que je sais que votre démarche est intègre. Mais malheureusement, vous êtes dans un système encore basé sur des principes qui ne fonctionnent plus à l'heure actuelle. Et c'est pas en essayant de colmater tout ça qu'on va y arriver. Donc il y a lieu à chercher de nouveaux modèles, aussi à réfléchir ensemble à ces nouveaux modèles, bien entendu. Et agir de manière un peu plus solidaire. Parce qu'on ne peut pas non plus continuer dans un marché de la musique où les uns écrasent les autres, où les artistes qui veulent monter marchent sur la tête des artistes qui ne montent pas, où le succès se base à l'aune du marketing qui est déployé sur des artistes, etc. On est dans un espèce de gouffre. Il y a déjà un gouffre financier pour arriver à lancer un artiste. Une major, quand elle lance un artiste, c'est à coup de budget publicitaire qui représente 75% à peu près du budget global de la production de l'artiste. Donc si on continue comme ça, effectivement, on va dans le mur. Oui. Là, il n'y a pas de problème. Après,
Mais avec les indés, tu verrais ça comment? Parce qu'à un moment donné, c'est... Qu'il y ait des droits d'auteur, enfin des redevances et compagnie, ça c'est une chose, mais après, t'as un disque qui est fait, un artiste qui veut vivre de son métier, on lui dit quoi? Tu fais ton disque et ton disque servira à faire du tour. Et donc tu vivras de ton intermittence du spectacle, qui elle-même risque de disparaître
dans les mois qui viennent. Oui, d'accord, mais tu disais tout à l'heure, par exemple, au niveau de la SACEM, que bon, c'était souvent un obstacle et que ça vous coûtait quand même assez cher, quoi. Le développement des indépendants peut se faire sans cette noble institution, déjà. Il peut y avoir un
peu plus... Ouais, ça c'est clair, mais je veux dire, je me plaignais pas de... Non,
après, il y a un autre mécanisme qui est celui qui était cité par mon voisin de droite, qui est le fait qu'il y a un gros blocage qui est dû à des habitudes qui ont trop longtemps été les mêmes, alors que les choses ont évolué. Et effectivement, c'est des machines qui sont difficiles à faire évoluer. Quand je discute avec les gens de la SACEM, ils me disent quelque part, on aimerait bien qu'il y ait une évolution, mais la SACEM, c'est une grosse machine, c'est difficile, c'est long. Bon, je pense qu'il y a quand même un peu de mauvaise volonté aussi, mais je ne doute pas qu'il y ait des gens de la SACEM qui aimeraient bien faire évoluer les choses, permettre par exemple une double gestion des œuvres, au moins pour conserver leur existence, parce que je pense qu'avec la libéralisation des sociétés de gestion collective sur le territoire européen, on risque d'avoir une SACEM de plus en plus affaiblie. Et puis ensuite, il y a un autre problème, c'est que dans la SACEM, les éditeurs de musique sont représentés. Et quoi qu'en disent les tenants les dirigeants de la SACEM, notamment M. Petit-Girard, qu'on a interrogé sur la question, même s'ils sont minoritaires au CA de la SACEM, c'est quand même eux qui rapportent le plus d'argent à la SACEM. Donc voilà. Comment peut-on continuer à marcher avec un système dans lequel 92% des sociétaires de la SACEM ne touchent rien, ou peu, ou trop peu de droits d'auteur? La redistribution des droits d'auteur, c'est quand même bien souvent utopique. Beaucoup d'artistes s'inscrivent à la SACEM pour rien. Donc ça, c'est problématique. Qu'est-ce qu'ils foutent à la SACEM? Ils n'ont rien à y faire. Qu'ils puissent au moins choisir de diffuser leurs œuvres autrement. Voilà. Après, ceux qui touchent des millions de la SACEM, je comprends bien qu'ils veulent y rester. Hein.
Ouais, mais ceux qui touchent, je ne parle pas de millions, mais disons, je sais pas, ceux qui touchent 3-4 000 euros par an, ils n'ont pas vraiment envie de partir non plus. Hein.
Oui, mais s'ils touchent 4000 euros par an, c'est parce que les radios utilisent ce système pour pouvoir les rétribuer. Mais si les radios pouvaient les rétribuer par le label, par exemple, par votre groupement de labels, si c'était vous qui perceviez ces droits d'auteur directement et que vous les reversiez directement aux artistes, est-ce que tu ne penses pas que ça serait plus simple?
Il y aurait moins de frais de gestion, déjà.
Voilà, c'est tout, c'est une question. Enfin, vous en faites assez de la paperasse avec la SACEM pour vous dire que des fois, bon, hein, ça va.
Des fois, tu demandes un peu à quoi sert le... Quand tu dis, par exemple, sur les droits mécaniques, on remplit un fichier Excel, on le renvoie, donc après, il y a toutes les informations dessus. Après, on leur renvoie des fichiers par rapport aux ventes qu'on a faites. Donc, le travail à faire n'est pas conséquent. C'est saisir un tableau, saisir des ventes. Et après, on te dit, voilà. Parce que nous, on paye, par exemple, sur 100% de ce qu'on paye en droits mécaniques, il y a peut-être 10% de frais de gestion. Donc, à un moment donné, tu payes 100 et finalement, l'artiste va percevoir 90 euros. Alors quand on pourrait le payer en direct, toi c'est un peu con. Pourquoi autant de frais? Pour des choses aussi simples. Et après, on parle des frais de la SACEM qui vont jusqu'à 15 ou 20%.
La solution que je vous propose, c'est d'être votre propre SACEM, quelque part, finalement. Et vous pouvez le faire parce que vous avez une structure qui est d'une taille correcte, qu'on ne va pas dire énorme, vous avez une taille moyenne. Et je pense qu'en gestion, ça vous coûtera pas plus de boulot que la SACEM. Hein. Que le fait de remplir toutes vos fiches SACEM. Maintenant, il faut que les radios qui diffusent votre musique jouent le jeu, il faut que les diffuseurs jouent le jeu, et ça, c'est une autre paire de manches, j'en conviens.
Ça, c'est plus costaud, mais c'est possible.
Ça pourrait être une piste.
Sur le pur modèle économique, en fait, je peux donner un exemple très concret, puisque j'ai autoproduit l'album de mon groupe, donc avec des chiffres très cons. Hein. En gros, en fait, ce qui est absolument aberrant, c'est quand vous êtes... sociétaire de la SACEM et que vous autoproduisez votre propre album, vous devez payer les droits de la SDRM qui sont ensuite reversés quelques temps plus tard sur votre compte à vous, via un chèque ou via etc. Et en fait, du coup, au passage, la SACEM a pris une commission. Alors qu'en fin de compte, ça me gêne moins quand effectivement c'est une société de production qui produit des disques, qui paye la SDRM et la SDRM reverse à l'artiste. Parce qu'au moins on est sûr que l'artiste est rémunéré, même si je comprends parfaitement le mécanisme de dire que ce serait plus logique que vous reversiez directement. Mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste qui s'autoproduit et qui autoproduit ses disques, voilà, je trouve le fonctionnement stupide et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye de refuser d'aller à la SACEM.
Même parce que d'un côté, tu es producteur, de l'autre côté, tu es artiste, enfin, tu es auteur. Donc en tant que producteur, tu payes, en tant qu'auteur, tu récupères. Mais tu ne récupères pas la somme initiale.
Exact, c'est ce que je voulais dire.
Voilà. Sans parler en plus des adhésions qui sont assez conséquentes tous les ans. Non, c'est que... Ah, pardon. Mais bon, moi je prends mon exemple personnel, pour exemple pour un album qu'on a sorti pour l'instant, donc c'est moi en tant qu'artiste. Si on avait pris les frais de la SACEM, on aurait carrément, on n'aurait pas été bénéficiaire du tout sur cet album dès le départ, quoi. Entre payer les inscriptions SACEM, payer les SDRM qui nous seraient revenus plus tard en sachant que. On touche après l'argent du distributeur aussi 6 mois après. Enfin, ça n'aurait pas été possible du tout. Donc, c'est aussi dans ça que les licences libres peuvent être intéressantes. C'est de permettre à des toutes petites structures comme la nôtre de pouvoir se lancer dans des projets qui n'auraient pas été possibles sans des licences libres.
Tout à l'heure... Eric proposait justement que vous gériez vous-même les droits. Et bon, quand on connaît Jarring et puis l'univers qu'il y a autour, il n'y a pas de problème. Mais là, moi, j'ai prêché un peu contre les systèmes individuels, que je défends plutôt beaucoup. Mais là, j'ai prêché contre parce qu'il y a aussi, il faut voir, pour moi, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux systèmes. L'inconvénient de ce système-là, ou l'un des inconvénients, parce qu'il y en a sûrement plusieurs, c'est que si on passe, et si on voit un peu ce qui se passe dans le monde, par exemple, je sais pas, aux États-Unis ou je ne sais où, il y a des producteurs qui perçoivent les droits d'auteur et qui normalement doivent effectivement les reverser aux artistes, mais simplement ils ont un peu tendance à les garder dans les poches, les redevances. Et c'est vrai que la société collective perçoit, alors elle le fait peut-être mal aujourd'hui, mais quand même, il y a ce petit côté-là où elle a le poids pour, face au producteur pour pouvoir l'obliger à payer les redevances si ce producteur s'avérait quelqu'un d'éthiquement pas très correct.
Moi, je répondrais un petit peu à ça. La SACEM, en soi, quand elle a été créée, à mon avis, c'était plutôt une avancée sociale pour les auteurs et compositeurs en musique. Maintenant, elle n'est pas assez équitable pour que ceux qui sont déclarés à la SACEM puissent avoir les rétributions qui leur sont dues.
Elle ne joue pas son rôle correctement au niveau de l'équité. Mais je pense que si on veut être objectif et vraiment avoir une analyse entre un système sous licence libre et un système, un SACEM, quoi, parce qu'on dit copyleft, copyright, mais grosso modo la discussion tourne autour de ça, je pense qu'il faut qu'on soit aussi lucide et pas un petit peu fanatique sur un système qui quand même a des contraintes. Voilà. Parce qu'il vaut mieux les avoir en tête et trouver les moyens de fermer les yeux en se disant oui c'est super et puis de ne pas prendre en considération certaines contraintes parce qu'il y en a.
Il faut aussi arrêter d'être parfaitement angélique puisque en France on reconnaît pas les lobbies. Faut reconnaître qu'il y a des musiciens qui sont formés, enfin pas sur un lobby réel et créé puisqu'on n'a pas le droit d'en faire, mais qui font pression de toute façon sur les sociétés civiles pour avoir plus de parts que les autres, pour être plus égaux que les autres. Donc effectivement, quand on reconnaîtra qu'il y a du lobbying industriel qui se fait à l'Assemblée nationale et qui crée des lois, même en ce moment, et qu'il y a des lobbies de musiciens qui font pression sur la SACEM. La SACEM, elle est majoritairement à Paris. On peut passer voir la SACEM et toutes les sociétés civiles, elles sont dans une rue, c'est vers le Moulin Rouge. C'est très simple, c'est des hôtels particuliers et des immeubles. Il est facile d'y aller en métro quand on est parisien et qu'on est quelqu'un de très reconnu. Maintenant, quand on est quelqu'un qui fait de la guitare à Nice, bah, allez voir la SACEM là-bas, et puis vous allez voir que c'est pas pareil. Mais tant qu'on reconnaîtra pas le fait qu'il y a... Oui, il y a des... Mais la centrale reste à Paris, je veux dire. Quoi ? À Neuilly-sur-Seine, ouais.
Moi, en fait, ça me fait appel à une question, peut-être que Mo a un peu d'expérience là-dessus, sur les pratiques. Mais effectivement, dans ce que tu disais, Stéphane, c'est que quand bien même la personne serait dans un système SACEM, c'est pas pour autant qu'il est vraiment protégé et que le producteur puisse faire pression, comme tu dis, ou demande à l'artiste de lui reverser des droits d'auteur qu'il aurait perçus. Enfin, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Est-ce que je dis pas que chez Jarigny vous faites ça, mais est-ce que, je sais pas, dans le métier qui est de producteur, comment ça se passe ? Est-ce que les artistes s'ils utilisent ce système SACEM, arrivent toujours à bien percevoir leur redevance SACEM sans devoir être obligés d'en remettre un peu sous la table au producteur pour que les choses se fassent ?
Bah non. Non, dans les règles de l'art, l'artiste perçoit son chèque directement à son nom de la part de la SACEM. Après qu'il en reverse une partie à son producteur, faut que ce soit uniquement de son propre chef. À un moment donné, tu peux dire, voilà, dans une économie, à un moment donné, ça a un coût. Et dans ton cas, en tant que producteur d'un côté et auteur de l'autre, ton chèque, finalement, tu le réinjectes dans ta production. C'est ce qu'on appelle un éditeur, tout simplement.
Sur lequel on est moins...
Quand tu es producteur et tu fais un contrat d'artiste, donc avec l'artiste en question, ce contrat d'artiste, c'est par rapport à l'auteur en tant que tel, auquel tu vas reverser des royautés. Après, quand on le salarie sur une production, on le salarie en tant qu'artiste-interprète pour fixer l'œuvre. Donc là, il a un côté salarié. Tu définis ensuite un taux de royauté et l'artiste-auteur percevra ses royautés, l'artiste-interprète percevra, donc pas que je me confonde. J'ai confondu. Je recommence. Donc en tant que producteur, on fait un contrat d'artiste avec l'artiste, par rapport à ce qui spécifie qu'on va exploiter sa création pendant 3 ans, 5 ans, avec un taux de royauté de temps basé sur 10 ou 15%, basé sur ce qu'on appelle le prix de gros hors-taxe. On va dire le prix un peu bible, c'est le prix de gros hors-taxe issu du monde de la distribution, sur lequel on va calculer les royautés et sur lequel est calculé le montant SDRM de droits mécaniques à payer, qui est 9,009% du prix de gros hors-taxe, d'où à peu près les 90 centimes si tu le vends à 10 euros. Quand l'artiste, après, en tant que tel, percevra 100% de ses droits d'auteur via la SACEM et 100% de ses royautés par le biais du producteur. Mais justement, tu as aussi l'éditeur qui intervient. Donc à la fois l'éditeur, c'est aussi bien, ça peut être le producteur qui peut être éditeur, qui stipule dans son contrat d'artiste, je veux, en tant qu'éditeur, avoir tes droits. Et, ou alors c'est une structure, une société externe, où l'artiste contractualise avec cette boîte d'édition pour ses droits. Et là, à chaque fois que l'artiste devra percevoir une somme, l'éditeur en prend 50%. C'est automatique. D'un côté, ça permet quand même, ça fait une somme assez importante. Tu dis, voilà, il y a quand même une boîte, une structure qui va me prendre 50% de tout ce que je vais toucher. Mais le boulot de l'éditeur, c'est de ramener, c'est de rapporter du chiffre. Donc en même temps, plus le mec va bosser, et finalement, imaginons qu'une année, tu étais un artiste qui avait des droits où ça te rapportait, je sais pas, 10 000 euros par an, avec une boîte d'édition, une grosse boîte d'édition, qui va racler les fonds de tiroir de la SACEM pour bien être sûr que tel concert que tu as fait a bien été déclaré, a bien été payé, et ainsi de suite. Et au final, tu peux peut-être percevoir l'année d'après le double ou le triple du fait du boulot de l'éditeur. Donc c'est lui qui va te garantir que tous tes droits à SACEM sont bien respectés et payés. Et c'est normal, parce qu'il va gagner 50% de la somme. Donc c'est comme un genre de rapporteur d'affaires, où tu fais un partage, un rapporteur d'affaires. Okay. Et qui va aussi, ça c'est un boulot, on va dire, de gratte-papier et d'éditeur, mais aussi l'éditeur, c'est celui qui va placer un de tes morceaux sur telle pub, qui va faire une tournée mondiale, un spot de télé, une campagne publicitaire, ainsi de suite. Là, c'est par rapport à son carnet d'adresses, il va le mettre quelque part. Et... Je connais un label qui est indépendant, qui a... Un de ses artistes a été mis sur une pub, un spot mondial de L'Oréal. Il était donc producteur-éditeur de son artiste, mais il s'était mis en coédition avec une grosse boîte d'édition. Donc en fait, il percevait uniquement 25% des sommes versées initialement à l'artiste. Je crois que les 25% sur une année, ça représentait, je ne sais plus ce qu'il me disait, mais 40 000 euros. C'était pas mal, quoi. Et surtout que vu qu'il était co-éditeur, c'était l'autre éditeur qui faisait tout le boulot de placement d'édition. Donc à un moment donné, l'artiste percevait 80 000, l'autre éditeur 40 000, et lui au final 40 000. Hein ? Ouais, c'est ça. Donc à un moment donné, pour un producteur indépendant, être éditeur, c'est une manière aussi de percevoir, de récupérer une certaine somme d'argent pour pouvoir la réinvestir, soit sur l'artiste, soit sur d'autres artistes. Faut pas percevoir ça comme un métier ignoble, et ainsi de suite. Mais si on prend le cas des majors, c'est qu'à un moment donné, les majors sont producteurs, d'artistes, après sont aussi éditeurs phonographiques, c'est-à-dire que tu payes la fabrication des disques, s'occupent de la promotion, s'occupent de la distribution et sont aussi éditeurs. Donc chaque fois que l'entité, la major producteur paye une somme, la major éditeur récupère 50% de la somme payée par la major producteur. Et donc ça permet de créer un flux d'argent qui reste à l'intérieur de la majeure, étant donné qu'en plus, elle distribue, elle récupère 40% de la partie production. En plus, les salles de concert, donc ça fait... C'est de l'argent qui passe d'une boîte à une autre. Et... Nous, on n'est pas éditeurs, donc chaque fois qu'on paye des droits mécaniques, c'est plein but. Normalement, ça va, moins les frais de gestion, 95%, 90% dans les mains de l'artiste, qui eux-mêmes peuvent ainsi se créer une sorte de cagnotte pour faire des projets ou se lancer dans la production. Ce qui fait que dans certains cas, avec des artistes, on a travaillé en licence. C'est qu'ils sont devenus producteurs de leurs projets et ensuite, par le biais de la licence, sur lequel on s'engage à faire la fabrication et la promotion du disque et de l'insérer dans les circuits de la distribution. Donc on s'engage à le faire en contrepartie, donc en avance sur les frais. En contrepartie, il y aura un taux de royauté sur chaque 10, de 15, 20, 25% ou plus si ça marche bien. Plus des taux de royauté qui varient en fonction des quantités vendues.
Alors, ce que je vous propose maintenant, vu l'heure qui commence à être un petit peu tardive, ça fait à peu près 2h30 que nous sommes ensemble en train de discuter des enjeux du copyright et du copyleft et de toutes les méthodes de distribution des œuvres. Qu'elle soit musicale ou littéraire. Donc c'est aussi un peu l'intérêt du Festival Artichaut d'être pluriartistique et c'est de montrer un petit peu que les thématiques de droit d'auteur sont applicables dans tous les domaines. On a même eu une petite intervention au niveau du logiciel libre. On pense, nous, que c'est très intéressant et très important de revenir, j'allais dire, sur le code de la propriété intellectuelle. Et je crois que c'était Dominique Magnès qui disait qu'on saurait, à mon sens, tous d'accord dans la salle pour dire que le droit moral, c'est un fondement essentiel de notre... Et on serait peut-être tous d'accord là-dessus en disant que le droit moral, c'est un fondement essentiel de notre législation et que c'est déjà une spécificité française dans le droit français, déjà rappelé. Et d'ailleurs, le titre de la conférence, quand je parlais de copyright et de copyleft, c'était effectivement pour dire que dans les débats sur le téléchargement et sur le piratage, très souvent, le droit moral, c'était le grand-parent pauvre des débats. Et que très souvent, on n'avait justement pas envie d'en parler parce que c'était une sorte. On éloignait un petit peu l'auteur et le pouvoir de l'auteur, et entre guillemets, on enlevait à l'auteur son pouvoir de disposer de lui-même des œuvres, et des œuvres comme il l'entendait. Donc c'est un petit peu aussi une idée aussi en disant que peu d'auteurs en fait veulent préserver leurs droits d'auteur au sein de lois telles que l'ADOPI ou telles que la DVSI avant, C'était un peu ce que disait Rico sur ces points-là, en disant que voilà, la DOPI, ça va protéger une seule frange très particulière des auteurs. Et j'allais dire, en termes de droit bête, protéger une minorité d'auteurs, et sachant que dans la loi, tout le monde peut être un auteur, donc potentiellement chaque citoyen, qu'il soit agriculteur, maçon, artiste, peintre, musicien, écrivain, peut être un auteur et peut demander des droits d'auteur pour toute œuvre qu'il va pouvoir produire. J'allais dire, au niveau du droit, au niveau de la conception du droit, en disant que chacun est égal devant la loi, une loi qui stipule que 10 000 œuvres sont, entre guillemets, plus protégées que d'autres, ça me semble, moi, un peu bancal au niveau de philosophique. Voilà. Donc, ce que je voulais dire en conclusion par rapport à ce débat, c'est d'abord remercier tous les intervenants d'être venus, remercier Stéphane Mieux aussi de son travail d'animateur, étant un petit peu malade. Et puis vous inviter en fait à un buffet dans l'atrium, un petit peu à l'extérieur en fait, à l'entrée de l'amphi, pour continuer un petit peu ces débats-là sans micro et sans enregistrement podcast. Voilà, merci bien.
Merci.
Ça fait plaisir de voir cet amphithéâtre utilisé. Hein. Parce qu'il est beau en plus. Hein.